Merci Alain Le Goguec et bonjour à tous. Aujourd'hui, les prêtres d'une religion oubliée, les druides. Les druides s'occupent des choses de la religion. Les jeunes gens viennent en foule s'instruire auprès d'eux et on les honore grandement. Jules César, la guerre des Gaules. D'histoire. Des vieillards à barbe blanche cueillant du gui avec une faucille en or, des animaux et peut-être même des hommes sacrifiés sur un autel au milieu d'une forêt profonde, voilà l'idée réductrice que l'on se fait aujourd'hui de la religion des Gaulois et de leurs druides, des clichés colportés et entretenus depuis des siècles par toute une littérature plus ou moins sérieuse. Des textes grecs et romains, quelques contes et légendes du Moyen-Âge, les écrivains romantiques au XIXe siècle et même quelques idéologies douteuses au XXe siècle. Il est vrai que les druides nous fascinent depuis toujours et que longtemps après leur disparition, ils ont laissé derrière eux des pratiques que le christianisme a eu du mal à faire disparaître.
Ce sont vos vassaux, monseigneur. C'est un peuple simple mais pieux à sa façon. Ils étaient druides avant le règne de César. Ce sont des enfants qui vénèrent en toute innocence les traditions de leurs ancêtres.
Ce sont des traditions du diable, mon père.
Bien longtemps avant que le Normand vienne ici avec sa religion, nous adorions alors la pierre et l'arbre. Dans nos champs, nous avions semé de saintes graines. Une vierge fut sacrifiée par nous pour la fertilité de nos terres et l'enrichissement de notre tribu. Et un cercle de feu, selon le rite sacré des druides, vous acceptez ?
J'accepte.
Christian Goudineau et Jean-Louis Bruneau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes tous les deux des spécialistes de l'histoire des Gaulois. Vous, Christian Goudineau, en tant qu'historien et professeur au Collège de France, et vous, Jean-Louis Bruneau, comme archéologue, chercheur au CNRS et auteur d'un livre sur les druides qui vient de paraître au Seuil. J'insiste sur vos compétences parce que sur les druides, on a dit tant de bêtises que on a du mal à distinguer le vrai du faux et les fantasmes de la réalité. Comment se fait-il d'ailleurs que 20 siècles après leur disparition, les druides puissent à ce point fasciner les gens? Je crois qu'il y a actuellement, vous en occupez beaucoup, Christian Goudineau, une exposition au musée gallo-romain à Lyon-Fourvière qui a un succès considérable. Comment expliquer cet intérêt pour les druides?
Eh bien, en grande partie par ce que vous avez dit, c'est-à-dire les fantasmes qui rôdent encore aujourd'hui dans la tête des gens et qui remontent à très loin. Le druide, au fond, c'est un personnage mystérieux, chenu, grande robe, une faucille d'or à la main, et qui, en même temps, peut être redoutable. C'est un peu comme l'idée qu'on pouvait avoir de certains prêtres incas ou aztèques, avec leurs rites sanglants, et puis ce côté, donc, de mystère, qui est lié à la forêt, à la brume, tout un pré-romantisme au romantisme de Pacotille.
Jean-Louis Bruneau, là-dessus, dans ce...
Oui, je suis tout à fait d'accord avec Christian Goudineau, mais il faut aussi savoir que les druides eux-mêmes ont entretenu ce mystère, d'une part parce qu'ils n'ont pas laissé d'écrits, ils l'ont fait volontairement, et parce qu'ils ont entretenu ce mystère autour d'eux qui participait de leur fonction, en quelque sorte.
Mais vous l'avez dit, c'est vrai qu'il y a d'autant plus de fantasmes qu'il n'y a rien, les Gaulois n'ont pas laissé d'écrits, et que ce sont finalement... D'autant plus que ça intéresse d'ailleurs... pas seulement la Gaule ou l'ancienne Gaule, c'est que les druides s'intéressent aussi au-delà des frontières de la France actuelle. On dit que c'est effectivement un rituel, une religion celtique, c'est-à-dire qu'il va au-delà. On parle beaucoup, par exemple, de druides et de religion des druides en Angleterre.
Oui, pour l'Angleterre, vous avez parfaitement raison. De l'autre côté du Rhin, est-ce que le phénomène druidique a existé? Comme nous n'avons des textes qui a des dates relativement tardives, c'est-à-dire pour la fin du deuxième et le premier siècle avant notre ère, on ne le sait pas. Il semble qu'à l'époque de César, le phénomène druidique, c'était essentiellement la Gaule au sens césarien, c'est-à-dire celle qui est à l'ouest du Rhin.
Ce sont, si j'ai bien compris, ce sont, d'ailleurs c'est César qui appelait les Gaulois des Gaulois, c'est-à-dire les Celtes qui sont à l'ouest du Rhin.
Tout à fait, c'est absolument. Ça.
Alors, ils n'ont pas laissé d'écrits, si bien d'ailleurs que leur histoire n'a pas été racontée par eux, mais écrite par d'autres, et pas forcément avec bienveillance quand il s'agissait de leurs ennemis romains, comme Jules César, conquérant des Gaulois, et qu'ils traitaient comme des barbares.
Où est le druide ?
Un druide ? Quel druide ?
L'homme en robe blanche.
Oh, lui, un vagabond, c'est tout. Personne n'oserait lever la main sur un druide. Qu'est-ce qui te retient ici, aussi loin de Rome ?
Ce qui t'a retenu tout ce temps dans les bois, et qui aujourd'hui te met sur ma route, le destin.
Tu parles comme un druide.
En vérité, j'ai longtemps été une sorte de druide. Un grand pontife de Rome. Cela m'a coûté beaucoup d'argent. Es-tu un druide ?
Non, j'ai choisi une autre voie.
Moi aussi. J'ai choisi de servir Rome. Rome qui a choisi le progrès, les ponts, les aqueducs, les routes, la libre circulation des marchandises et des hommes. Et, pour le bien de tous, un monde civilisé.
Alors, le généreux César vient en Gaule apporter la civilisation à nous, pauvres barbares.
Un commentaire sur ce qu'on vient d'entendre, Christian Goudineau ?
Oh ben c'est le classique barbare d'un côté, civilisé de l'autre, qui est tout à fait à nuancer en ce qui concerne cette époque, et notamment dans la bouche de César, dont on sait qu'il a avec lui à peu près les deux tiers des peuples gaulois, et une très très grande partie de l'aristocratie.
Alors on dit souvent, et c'est vrai qu'il a beaucoup écrit, notamment dans la guerre des Gaules sur les druides, mais vous le rappelez dans votre livre, Jean-Louis Bruneau, on parlait des druides bien avant César. D'ailleurs, ce qu'il a écrit, il s'en est inspiré d'un certain nombre d'historiens grecs.
Tout à fait. César s'inspire énormément de Posidonios d'Apamée, qui est un grand savant grec et un philosophe. Or, ce sont justement les philosophes grecs qui nous donnent les premières mentions des druides, et à une date très haute, puisqu'il faut remonter très certainement au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et les druides prennent conscience, les Grecs prennent conscience des druides, justement quand ils prennent conscience de leur propre philosophie et qu'ils tentent de faire l'histoire de leur philosophie. À ce moment, ils se rendent compte qu'ils doivent beaucoup au peuple qui les entoure. Évidemment les gens de l'Orient, évidemment les Perses, les Indiens, mais aussi les gens de l'Occident, et parmi eux, précisément les druides. Donc les premières histoires de la philosophie qui malheureusement sont perdues, mais on en a quand même un bon exemple, celui de Diogène Laërce, nous indique bien le rôle des druides parmi ces penseurs très anciens qui remontent au 5e, peut-être au 6e siècle avant Jésus-Christ.
Vous rappelez d'ailleurs que si les Grecs ont eu connaissance de l'existence des druides, c'est parce qu'ils avaient une très vieille colonie qui était tout simplement Marseille,
bien
et
sûr.
En contact avec les Gaulois. Mais alors du coup, ça veut dire, Jean-Louis Bruneau, que les druides, c'est très ancien en réalité. De quand est-ce qu'on peut dire, quand est-ce qu'ils apparaissent au fond dans l'histoire ?
Bon, ça c'est évidemment très difficile à dater précisément, mais on peut estimer qu'ils apparaissent au début du premier millénaire avant Jésus-Christ. Et pour en avoir une idée, il faut se fonder un petit peu sur ce qui se passe chez d'autres civilisations un petit peu comparables, notamment chez les Perses, où on voit des personnages un petit peu de même type, les mages, qui émergent en quelque sorte de la même façon. Ils se distinguent de la noblesse dont ils sont issus, parce qu'ils deviennent assez vite des experts en divination, en religion et dans les premières pratiques scientifiques.
D'où vient le mot druide ? Parce que là-dessus, je crois qu'on a dit pas mal de bêtises. Certains ont dit que l'étymologie, ça venait du chêne. Vous, vous dites très sage, hein, c'est ça ?
Oui, alors c'est une très vieille querelle qui remonte justement aux Grecs, parce que les Grecs, lorsqu'ils ont entendu ce mot, qui est un mot celtique, hein, il faut bien se mettre dans l'idée, ils ont tout de suite reconnu le mot dru, parce que druide, en fait, ça se prononçait très certainement druid ou druid, avec deux racines, l'une dru et l'autre weed, qu'ils ont reconnu, puisque ce sont des racines indo-européennes, et dans dru, ils ont reconnu le mot grec drus, ce qui était certainement une erreur, et en fait, maintenant, on a plutôt tendance à interpréter ce premier radical comme un adverbe intensif, c'est-à-dire celui qui est très fort, celui qui connaît très fort.
Alors les Grecs ont donc inspiré, vous le rappelez, les Romains qui ont écrit, il n'y a pas que César, il y a aussi Cicéron, Pline, une quantité d'auteurs romains qui tous d'ailleurs insistaient surtout, vous l'avez d'ailleurs dit, sur les fonctions religieuses des druides et sur leurs dons de divination.
Archidruide Gutua, que devons-nous faire ?
Regardez, c'est le signe de la venue d'un roi.
La venue d'un roi ? Nous n'avons plus droit en Gaule.
Peut-être alors les Romains ?
Eux non plus n'ont pas droit.
Un héros doit surgir de l'obscurité. Et lui seul pourra peut-être empêcher la roue du destin de nous écraser.
Tu sais ce que veut dire mon nom ?
C'est la femelle du cheval, c'est ça ? Tu sais ce que veut dire le mien ?
Non.
Vercingétorix, chef des grands guerriers.
Je ne sais pas, Christian Goudinot, si les druides avaient prévu dans les astres l'arrivée de Vercingétorix, mais César en parle, hein, de ses talents de divination. Il se livre à de nombreuses spéculations sur les astres et leurs mouvements. C'est vrai que ça, c'est pas une légende, je pense, enfin, j'en sais rien.
Certainement pas. Non. Et d'ailleurs, c'est une tradition qu'ils ne font que reprendre, car un certain nombre de monuments qu'on trouve en Europe, et qui remontent parfois à l'âge du bronze, voire à la fin du néolithique, sont des monuments orientés sur les solstices. Et le fait que César nous donne cette indication prouve son admiration, qui était réelle, pour les capacités scientifiques de ces gens-là. Et d'ailleurs, il y a une autre anecdote qui est tout à fait éclairante. Il y avait un druide à l'époque, juste avant César, qui s'appelait Divitiakos, et qui était un grand dirigeant du peuple éduin, donc les gens de la Bourgogne et du Morvan. Et il est allé, pour des raisons qui sont peu importantes ici, il est allé en ambassade à Rome. Et où a-t-il logé, ou au moins où a-t-il été reçu ? Chez Cicéron. Et il a parlé avec Cicéron de tout cela, et notamment des procédés de divination.
Alors ça, on peut dire que c'est au fond un de leurs talents, mais de façon générale, la première des choses à laquelle on pense encore aujourd'hui, c'est évidemment la fonction religieuse qui était la leur dans la société gauloise. C'est la première chose qui vient à l'idée. Est-ce qu'on peut dire que ce sont des prêtres, comme je l'ai dit tout à l'heure, Christian Goudinot ?
Bah, tout dépend de la définition que vous donnez de prêtre. Moi, je dirais que ce sont des organisateurs du sacrifice et de tous les rituels qui sont effectivement des rituels religieux qui sont au cœur de la vie sociale.
Est-ce que ça faisait partie de leur culte, le fait d'aller cueillir du gui dans la forêt des Carnutes avec une faucille en or?
Je laisse répondre Jean-Louis.
Jean-Louis Bruno.
C'est un rite qui a existé, parce qu'il est très très bien décrit par Pline le Naturaliste, donc c'est une description qui est tellement belle et tellement précise qu'il faut la croire, mais c'est un rite parmi beaucoup d'autres. Le problème, c'est que les historiens de la religion, très tôt, se sont obnubilés sur ce passage, effectivement, un peu fascinant, et ils en ont tiré des conclusions qui sont beaucoup trop larges, et effectivement, c'est un rite de cueillette, et le gui, on sait que cette plante avait une grande importance pour les Gaulois et pour les druides en particulier, mais ça n'est pas là l'essentiel de leur action.
En tout cas, c'est un aspect assez sympathique au fond de leur fonction de prêtre, entre guillemets. Il y en a un qui l'est moins, Christian Goudinot vient de l'évoquer, ce sont les sacrifices, parce que parmi les rituels, il y a bien sûr, et ça a existé, celui des sacrifices. D'abord, le sacrifice des animaux. J'étais très frappé en vous lisant de savoir que on sacrifie les animaux, mais on les sacrifie aussi à Rome, hein, et dans d'autres religions, mais ce sont uniquement des animaux domestiques.
Oui, ça c'est vraiment très très important. Ça montre bien que les Gaulois ne sont pas différents des Grecs et des Romains. Ils sacrifient des animaux domestiques, c'est-à-dire qu'ils sacrifient une production qui est la leur, qui est la production des hommes. Et contrairement à ce que les historiens de la religion ont toujours laissé entendre, ils ne sacrifient surtout pas les animaux sauvages qui, eux, appartiennent aux dieux. Donc on sacrifie ce qu'on produit, c'est-à-dire les grands animaux,
donc on élève, oui.
Le bœuf, le mouton, le porc, exactement comme à Rome ou en Grèce.
Mais qu'est-ce qu'on en fait des restes de ces animaux ? Vous dites que dans certains cas, on se les partageait, on les mangeait.
Oui, bah là, c'est le sacrifice habituel sur tous les bords de la Méditerranée, c'est-à-dire que les dieux et les hommes mangent ensemble une partie de l'animal sacrifié.
Alors ça, c'était pour les dieux, hein, c'était des offrandes aux dieux. Alors ça, ce sont des sacrifices d'animaux, tels qu'on a pu d'ailleurs en découvrir des vestiges dans un site que vous connaissez bien, qui est Gournay-sur-Aronde. En revanche, on a découvert un autre qui s'appelle Ribemont-sur-Ancre, qui est un lieu de sacrifice. Et là, on s'est dit qu'il y avait peut-être eu des sacrifices humains. Et ça, évidemment, ça a beaucoup terni la réputation des druides.
Oui, alors c'est une histoire également qui remonte à l'Antiquité. Donc ça fait partie de l'image caricaturale que les Romains, surtout, ont voulu donner des Gaulois. Cicéron le premier, dont parlait Christian Goudinot à l'instant, qui indique que les Gaulois pratiquaient le sacrifice humain à tout va. Évidemment, ça n'est pas vrai. Et ils ont certainement sacrifié des humains, comme beaucoup de civilisations de l'Antiquité. C'est vrai, bien sûr, mais pas dans les quantités qui nous sont données, et ce sont quand même des choses archaïques qui méritent d'être reprécisées, justement.
Parce que justement, dans l'exposition de ce catalogue, dans le catalogue plutôt de l'exposition dont je parlais tout à l'heure, il y a quand même des squelettes qui ont été empalés littéralement ensemble.
Oui, alors ça, c'est plutôt des choses qui sont à mettre au titre des rites guerriers, du traitement des morts, et notamment des guerriers vaincus. Donc, effectivement, les Gaulois avaient d'étranges pratiques avec les corps des guerriers, c'est-à-dire qu'ils en faisaient des trophées.
Ils piquaient leur crâne, par exemple. Voilà. Si bon, bien qu'on a trouvé des squelettes sans crâne.
C'est ça, c'est exactement ça. Donc, le guerrier prenait le crâne pour lui-même et il offrait le reste du corps, ainsi que les armes, enfin, tout le reste, de toute façon, aux dieux. C'est le trophée. La même chose, enfin presque la même chose existait dans le monde gréco-romain, sauf que très rapidement, les corps ont disparu. Les Grecs et les Romains n'offraient plus que les armes.
Alors ça, c'était un traitement réservé aux guerriers vaincus, mais pour ce qui concerne les vainqueurs, évidemment, on ne les sacrifiait pas, mais on laissait leur corps exposé très longtemps la merci des oiseaux.
Oui, alors c'est une coutume funéraire qui n'est pas inconnue puisqu'elle se pratique encore actuellement en Inde. C'est une pratique qui existe chez les Parsis qui venaient de Perse. C'est ce qu'on appelle les funérailles célestes, c'est-à-dire que on estime que certaines personnes, enfin l'âme de certaines personnes doit regagner les cieux, et pour l'aider à regagner très vite les cieux, on laisse les oiseaux manger le corps, et donc en même temps ils se chargent de l'âme. Et ça, c'est vrai pour certains Celtes, et on a des textes latins notamment qui sont très explicites à ce sujet. Et à Rimont-sur-Ancre, pour la première fois, on a trouvé des restes d'os humains qui ont subi ce traitement, parce qu'effectivement le paradis n'était gagnable que pour les guerriers qui mouraient sur le champ de bataille. Quant aux autres, ils continuaient le cycle des réincarnations. Bon, c'est assez connu grâce à ces César, les Gaulois pensaient à la métempsychose, enfin, concevaient la métempsychose et pensaient que les âmes se réincarnaient sans cesse.
Des druides, Alan Stivell, une espèce de barde celtique égarée au XXe siècle. Des bardes et des druides, c'était pas la même chose, hein, Christian Goudineau.
Disons que, à l'intérieur d'une vaste corporation qui s'occupait des aspects religieux et des aspects sociaux, on pouvait distinguer diverses catégories. Et les bardes, eux, avaient pour fonction essentielle de rédiger des textes, d'écrire des poèmes, et peut-être même d'organiser telle ou telle cérémonie.
Autrement dit, il ne faut pas confondre le barde Assurance Taurix avec le druide Panoramix. Hein.
Ben, Assurance Taurix, c'est pas tout à fait la même chose qu'un barde. C'est le roi, si je ne me trompe pas.
Non, je suis pas sûr. Enfin, on a vérifié ce matin, mais je crois pas. Enfin, peu importe. En tout cas, les druides n'avaient pas que des fonctions religieuses. Christian Goudineau, en parlant d'eux, d'ailleurs, dans le Nouvel Observateur, un jour, vous m'avez fait beaucoup rire, parce que vous avez eu cette phrase parlant des druides, ce sont des énarques polyvalents.
J'avais complètement oublié.
Non, mais c'était assez juste, oui. Parce qu'au fond, ce sont des savants, mais qui savent tout faire, plus ou moins bien. Hein,
mais alors aujourd'hui, je ne dirais peut-être plus ça exactement, car je me suis rendu compte que leurs connaissances scientifiques étaient beaucoup plus importantes que je n'imaginais, et je ne les attribue pas aux énarques. Bon,
mais ce sont, vous le rappelez, des magistrats qui rendent justice, les peines capitales, qui règlent des différends entre les Gaulois, entre les États aussi, entre les tribus. Et puis aussi, un rôle très important, ce sont des savants, et à ce titre, chargés de l'éducation, au fond, des jeunes. Hein, c'est la transmission du savoir, se fait par les druides, ce sont un peu les profs de l'époque.
D'une certaine manière, oui, mais il faut bien voir que cette éducation-là est réservée aux, aux enfants des grands aristocrates. Ouais. Hein, bien entendu, c'est pas du tout une éducation qui soit ouverte à un très grand nombre. Mais vous voyez, il y a eu quelqu'un au XVIIIe siècle, chez nous, qui s'appelait Don Jacques Martin. C'était un bénédictin de l'abbaye de Saint-Maur et qui a écrit un livre sur la religion des Gaulois et qui est un livre extrêmement pénétrant. Parce que lui, il connaissait très bien le latin, le grec, mais aussi d'autres langues comme l'hébreu, etc. Et sa vaste culture, et puis sans doute son état lui-même, lui a permis de dire ceci. Dans la religion, il y a deux choses. La religion s'appuie toujours, dans l'Antiquité, bien entendu, puisque c'était pas une religion révélée, sur l'observation du mouvement des astres. Elle est d'abord savante. Et pour ensuite faire comprendre au peuple, eh bien, on invente de belles histoires avec des personnages qui sont les dieux.
Et ça, donc, c'est l'éducation.
Donc, il faut bien voir que les druides, eh bien, ont comme première responsabilité de maintenir et peut-être d'accroître ce fonds scientifique.
Je ne sais pas lequel de vous deux, également dans une interview, dit même qu'on pourrait les appeler, bien avant la lettre, des intellectuels ou des philosophes même.
Oui. Des philosophes, oui, sûrement.
Oui, certainement, oui, oui. Alors, ce sont des philosophes très particuliers. Il faut peut-être rappeler qu'on, dans l'Antiquité, notamment les auteurs grecs, les rapprochent sans cesse des pythagoriciens. Alors les pythagoriciens, évidemment, on a un peu oublié qui ils sont, donc ce sont les disciples de Pythagore, et ce sont surtout des intellectuels qui ont tenté, ou qui ont même pris le pouvoir en Grande Grèce, dans un certain nombre de cités, et qui pratiquaient une philosophie assez particulière pour l'Antiquité, qui est une philosophie de l'action. C'est-à-dire qu'ils ne concevaient pas leur activité philosophique comme purement intellectuelle, mais qui devait déboucher sur une meilleure société et un meilleur développement de l'individu.
Au fond, une action un peu politique d'une certaine manière. D'ailleurs, d'une certaine manière aussi, ces rassemblements de druides dans la forêt des Carnutes, en plein centre de la Gaule, c'est presque un peu le parlement, quand on vous lit, de l'époque. Et aussi, ils incarnaient l'unité, ou ils réalisaient, essayaient de réaliser l'unité des Gaulois. Et pourquoi ont-ils un jour disparu, justement? Est-ce que c'est pas pour cette raison? Pourquoi et quand? Parce que vous vous dites aussi, à un moment donné, qu'ils disparaissent avant, au fond, César, qu'il n'y a plus que quelques-uns qui existent, mais qu'avant même l'arrivée des Romains, ils ont disparu.
Oui, bah, c'est surtout César qui nous fait comprendre qu'ils ont disparu, puisque Christian Godinot, tout à l'heure, a parlé de Divikiak. Divikiak est un compagnon de César, un guerrier, et à aucun moment, César lui-même n'indique qu'il est un druide. Or, on le sait par Cicéron, ce qui veut dire que ce druide ne se considérait plus comme druide. Il avait eu cette éducation, cette formation, mais il était devenu un homme politique. Et très certainement, à travers la figure de Divikiak, on a une idée de cette fin des druides, de leur transformation. C'est qu'effectivement, une partie de cette corporation des druides se lance dans la politique, comme les pythagoriciens l'avaient fait en Grande Grèce, et c'est le péril qui les attend, en quelque sorte.
Alors, ils disparaissent de la Gaule, mais pas des mémoires, puisque pendant 20 siècles, ils ont inspiré des quantités de livres, des légendes et même, au XXe siècle, une bande dessinée que tout le monde connaît.
Le secret du courage des Gaulois était une potion magique préparée par le druide Panoramix. C'est elle qui rendait les Gaulois invincibles, indestructibles et, de l'avis de César, intolérables.
Astérix, à toi.
Miam, miam, miam.
Non, Obélix, pas à toi. Tu sais très bien que tu es tombé dans la potion quand tu étais petit. Et voilà. Cusec.
Mais César, tant que ces Gaulois disposeront de cette potion...
Exactement, cette satanée potion met en péril toute ma carrière. Tant que leur druide s'obstinera à concocter cette potion magique, toutes mes campagnes militaires resteront sans effet. Il nous suffira de capturer leur druide et de le jeter en pâture au lion.
On dit que les druides sont immortels.
Alors pour être immortel, ils le sont en effet, car depuis 20 siècles, finalement, on n'a jamais cessé de parler d'eux, vous en parlez tous les deux, et de déformer aussi leur histoire. On l'a vu, les Romains les considéraient comme des barbares, c'était commode, comme ça justifiait leur conquête. Le christianisme aussi, évidemment, se méfie de ces païens. L'ancien régime monarchique ne les aime pas beaucoup. Il y a vraiment un purgatoire très long pour les druides, mais dès le 19e siècle, voilà qu'on commence à les réhabiliter, Christian Godinot.
Peut-être même avant, parce qu'il y a deux phénomènes qui vont se rejoindre. Le premier, c'est la découverte de certains monuments mégalithiques, et notamment les fameux de Stonehenge, Karnak, les grands dolmens, les grands alignements, et ils sont interprétés comme des anciens temples. Et il y a même un auteur anglais qui s'appelle Stockley qui les attribue nommément aux druides. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'en Angleterre vont naître un certain nombre de manifestations où on va venir observer le solstice d'été ou le solstice d'hiver, des choses comme cela, avec de grands défilés de personnes en robe blanche. Là, donc, on est au 18e. Et le deuxième phénomène, c'est ce qu'on appelle le préromantisme, avec les poèmes d'un Écossais qui s'appelait Macpherson et qui a créé, de toute pièce, un personnage dont il disait évidemment qu'il avait réellement existé et dont il avait recueilli, dont il aurait recueilli les poèmes dans les Landes par la tradition orale. Et c'est le fameux personnage d'Ossian qui a mis l'Europe entière sous son charme. Et Ossian, c'est à la fois un druide, un barde, un guerrier. Et il va inspirer notamment Chateaubriand dans Les Martyrs. Et on aura, grâce au génie de Chateaubriand, disons, une espèce de fusion de toutes ces traditions.
Mais est-ce que, là, on est au 19e siècle, est-ce que le druide, pour les gens qui les réhabilitent, c'est pas un peu l'incarnation du sentiment national, comme Vercingétorix, brusquement, ils ont rassemblé les Gaulois. C'est presque une existence d'une nation bien avant le mot.
Bien sûr, tout cela va ensemble. Mmh. Et le fait que ces monuments mégalithiques soient attribués aux druides renforce l'idée que nos ancêtres les plus anciens, ceux qui ont occupé le sol les premiers, ce sont les Gaulois.
Et aujourd'hui, alors cette espèce de celtomania, je me tourne vers vous Jean-Louis Bruno, vous êtes archéologue, mais vous avez bien vu que ça fascine les gens, et des idéologies d'ailleurs un peu douteuses de temps en temps, est-ce qu'il faut la prendre au sérieux, ces druides d'aujourd'hui, du 20e ou du 21e siècle?
Il faut la prendre au sérieux en France, peut-être pas trop, parce que c'est une idéologie qui ne prend pas tellement, alors que effectivement dans les pays anglo-saxons, ce mouvement qui est apparu, comme on vient de le dire, au XVIIIe siècle, a plus d'assises populaires. Néanmoins, il faut la prendre au sérieux quand même, parce qu'elle véhicule des idées, notamment sur la pureté de la race celtique, qui serait en quelque sorte un sous-produit de la race aryenne, qui sont quand même assez dangereuses. Et j'espère que nos travaux montrent que toutes ces idéologies n'ont pas grand-chose à voir avec la réalité.
Ben, vos travaux, je les rappelle, Jean-Louis Bruno, vous venez de publier Les Druides, des philosophes chez les barbares aux éditions du Seuil. Et puis, Christian Goudineau, vous avez dirigé l'ouvrage Religion et société en Gaule aux éditions Errance, qui est le catalogue d'une exposition que je recommande chaleureusement, Partout à Tis, la religion des Gaulois, une exposition au musée gallo-romain de Lyon-Fourvière jusqu'au 7 janvier 2007. Vous avez pu entendre des extraits des films Vercingétorix, La légende du druide roi de Jacques Dorfman, Astérix et les Indiens de Gerhard Hahn, tous deux disponibles en DVD aux éditions Zone 2, ainsi que du film Le Seigneur de la Guerre de Franklin Schaffner. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Alain Stam, Jean-Philippe Jeanne, Emmanuel Fournier, Claire Destacan, Franck Olivard et notre réalisatrice Anne Kobilac.